Nous lirons quelques textes pour introduire la prédication conduite par Roger. Et pour commencer, nous lirons dans Actes, chapitre 7, 11 à 14. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes.
Et nous retrouvons l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 50. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna deux fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction.
Ensuite, au chapitre 42, versets 1 à 4, dans Genèse. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y, pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur.
Alors il y a eu lieu la première rencontre, et nous reprenons au verset 29 du Genèse 42. Lorsqu'ils furent de retour chez leur père Jacob au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme, qui est le maître du pays, nous a parlé durement, dirent-ils. Il nous a pris pour des espions. Nous avons protesté, non? Nous sommes d'honnêtes gens. Nous n'avons jamais été des espions. Nous étions 12 frères, fils d'un même père. L'un d'eux n'est plus, et le plus jeune est resté avec notre père au pays de Canaan. Alors, l'homme qui est le maître du pays nous a répondu, « Voici comment je saurai que vous êtes d'honnêtes gens. Laissez-moi l'un de vos frères, prenez ce qu'il vous faut pour les besoins de vos familles et partez. Ramenez-moi votre jeune frère pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors je vous rendrai votre frère et vous pourrez circuler librement dans le pays. »
Chapitre 43, versets 1 et 2. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » versets 15 et 16. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. »
Deuxième rencontre. Chapitre 44, verset 1. Joseph ordonna à l'intendant de sa maison, « Remplis les sacs de ces hommes d'autant de vivres qu'ils peuvent en contenir, et remet l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, on laissa partir ces gens avec leurs ânes. Ils venaient de quitter la ville et n'en étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant, « Va, poursuis ces gens. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? Pourquoi avez-vous volé la coupe dont mon maître se sert pour boire ?» et pour lire les présages, vous avez très mal agi. » L'intendant les rattrapa donc et leur parla comme son maître le lui avait dit.
Et nous continuons versets 11-17. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre. Et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore. Et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre Père.
J'aimerais prier. Ce matin, Père, tu nous as parlé de rencontres, de retrouvailles, d'absence, de réconciliation, de se retrouver vraiment. Et nous te prions d'éclairer notre esprit par ce récit de la vie de Joseph et de parler à nos cœurs des rencontres, de vraies rencontres avec toi, les uns avec les autres, en ton nom. Amen. Les souffrances étaient réelles chez Joseph. on le voit très bien de la manière qu'il a nommé ces deux garçons. Nous l'avons déjà vu, Manassé m'a fait oublier toutes mes souffrances pour ensuite préparer l'arrivée d'Éphraïm, fécond. Et on voit ici le mouvement du livre de la Genèse qui ouvre avec une grande fécondité dans le jardin d'Éden et nous voilà plongés dans une situation de famine. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi, comme nous avons lu, entendu dans le livre des Actes, c'est pas à la première reprise que Joseph s'est révélé à ses frères? Pourquoi le Seigneur Jésus est parti et qui doit avoir une deuxième rencontre? Il y a juste quelques semaines de ça, en début de ce mois, j'étais à un mariage. Le couple, c'était pas très habituel parce que le couple était à l'entrée de l'église à accueillir tous les invités. La bonne humeur régnait. J'ai trouvé une place à côté d'une dame âgée que j'ai découvert, que je la connaissais déjà, et il y a 25 ans auparavant, quand j'étais étudiant à Emmaüs, on s'est reconnu. Elle, largement dépassée les 80 ans. C'était vraiment très sympa parce qu'on a évoqué des bons moments vécus ensemble dans le passé. Ça m'a fait penser à l'arrivée au ciel. Bonne humeur qui règne, paix parfaite, accueillit pleinement les retrouvailles. Quel bonheur! Et ça me fait penser aussi à ces petites tensions qui sont pas encore réglées. Maintenant qu'on est là-haut, dans ce climat parfait d'amour, il me semble que ces choses prendront une toute autre dimension, leur juste place. Et peut-être on pensera, on aurait pu quand même arriver à les régler avant. Mais c'est là toute la question. Comment? Demeurer là-haut avec les croyants que j'aime, ce sera la gloire. Vivre ici-bas avec les croyants que je connais, c'est toute une autre histoire. Je crois que dans cette histoire de Joseph, nous avons des choses à apprendre sur la réconciliation. Tous des gens honnêtes. Vous l'avez entendu, ça revient comme un refrain à travers ce chapitre 42, 5 fois au moins. Tous des gens honnêtes, nous. Et les voilà, un jour qui arrive. Ils se pointent là et Joseph les voit à la sortie vers les caisses. Joseph aperçut ses frères et les reconnut. Vous imaginez, c'est pas 2000 ans, mais c'est quand même plus que 20 ans depuis qu'il les a vus. Depuis ce moment où lui, il était au fond du puits, a crié, demandé compassion pendant que eux, ils prenaient le café. Et cette dernière fois, le dernier instant qu'il les a vus, c'était quand ils étaient en train de conclure le marché avec les Madianites. 20 pièces d'argent, et voilà, il est à vous. Donc ce n'est pas tellement leur insistance qu'ils sont tous des gens honnêtes qui va convaincre Joseph. Facile à dire, mais qu'en est-il vraiment au fond de leur cœur? Dans un clin d'œil, il y a un plan qui naît dans l'esprit de Joseph. Pourquoi il ne se révèle pas tout de suite? J'aimerais vous suggérer que Joseph vise plus haut que la rencontre. C'est la première rencontre, ça a lieu, mais il vise plus haut, il vise la réconciliation. Pas simplement que des retrouvailles. Ma proposition est que Joseph a pardonné à ses frères. Les larmes qu'il verse, on est au chapitre 42, verset 24, les larmes qu'il verse ne sont pas des larmes d'amertume, de rancœur. Il a pardonné, il a oublié, nous l'avons lu, mais la vraie réconciliation demande aussi quelque chose de la part des fautifs. Un demi-tour, changement d'attitude, ce que la Bible, nos Bibles appellent, nous le savons, la repentance. C'est un peu le dernier consigne que Jésus laisse à ses disciples. Vous voyez, leur dit Jésus, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer d'attitude pour obtenir le pardon des péchés. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute et s'il la reconnaît, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à son égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant « Je reconnais ma faute », pardonne-lui. Il y a du chemin à faire chez ses frères. Est-ce que quelque chose a changé dans le fond chez eux? Parce que pour que le pardon puisse porter ses fruits, il me semble que la Bible nous enseigne qu'il faut aussi de la repentance. Il y aura deux parties et 2 démarches à faire. Ramenez-moi votre plus jeune frère. Première rencontre. Deuxième rencontre, on avance au chapitre 43 et 44. La famine se fait sentir toujours de plus en plus durement. C'est comme ça que chapitre 43 s'ouvre. Pourquoi Dieu permet de telles choses? C'est une grande question. En tout cas, ici, on a l'impression que tout concourt pour réconcilier une seule famille. Pas n'importe laquelle, la famille de qui sortira un jour une descendance qui offrira la réconciliation au monde entier avec son Créateur. Mais pas de réconciliation sans repentance. Donc voilà les frères en route, et cette fois c'est avec le petit Benjamin. Deuxième rencontre. Repas de fête. 5 portion pour le pauvre Benjamin. Comment il a pu manger tout ça? Mais Joseph, à nouveau en larmes, le petit frère, l'image de la maman. Et à nouveau les larmes en cachette. Mais est-ce que c'est pas maintenant le moment de se faire connaître? Mais attendez, le test n'a pas encore eu lieu. Ils sont là, les sacs remplis de toutes les choses qui leur manquaient, les ânes chargés, la ville derrière eux, la route grande ouverte devant, Simeon récupéré de la partie, quand les douaniers volants arrivent. Mais on n'a rien à nous reprocher, disent les frères. On est innocents. Rien à cacher, nous. Alors, on va examiner ces sacs. Chérubin, rien. Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, rien. Juste le dernier sac, s'il vous plaît. L'argent et l'intendant planche sa main dans le sac et trouve la coupe en argent. Est-ce que les frères ont eu un changement de cœur? Est-ce que cette fois, ils vont simplement laisser le plus jeune se débrouiller et le livrer à son sort? De retour en ville, devant cet homme inconnu, prosterné à terre, Judas sera le porte-parole pour eux tous. Que répondrons-nous à mon Seigneur? Que dirions-nous? Dieu a mis à découverte la faute de ses serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, nous ainsi que celui qui avait la coupe dans son sac. Et la réponse? Messieurs, vous êtes libres de partir, sauf le petit. Comment ils vont réagir? Première rencontre, deuxième rencontre, et maintenant la vraie rencontre. Pour Joseph, le moment de la réconciliation est enfin arrivé. C'est toujours les mêmes 10 frères qui sont devant lui. Mais cette fois, ils sont là avec leurs propres vêtements déchirés. Cette fois, sur le chemin, ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas voulu laisser partir Benjamin. Ils sont là, à ses côtés, solidaire. À l'évidence, l'homme qui l'a vendu, Judas, est un homme transformé. Il plaide la compassion de Joseph à celui qui a le pouvoir de décider de leur avenir. Et en demandant sa compassion, la voie de la réconciliation s'ouvre. Et les larmes coulent librement. Je suis Joseph. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu. pour être amenés en Égypte. Mais maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Que de larmes. Quelle joie. Tu m'entoures, dit David quand il vit la même chose, tu m'entoures de chants de délivrance. Pour conclure, je crois qu'il faut souligner que Joseph a pu résister à la tentation de s'enfermer dans sa souffrance. Il a choisi de devenir agent de réconciliation. C'est au prix de beaucoup de larmes, mais il a œuvré pour qu'une vraie réconciliation puisse avoir Dieu. Il me semble qu'il y a un autre trône qui n'est pas étranger aux larmes. Car de ce trône-là aussi, au prix de beaucoup de souffrances, un beaucoup plus grand que Joseph a fait le chemin nécessaire en faveur d'une humanité qui, entre nous, ne peut pas prétendre d'être tous des gens honnêtes. Mais le pardon offert de ce trône-là attend notre demi-tour sur le chemin que nous avons emprunté pour sceller la réconciliation que Dieu attend avec chacun. Pour qu'il y ait, puisse avoir une vraie rencontre. Mesdames, messieurs, vous êtes libres de partir tranquillement. Coûteux de se rencontrer, de se réconcilier. Et des fois, il faut dire que les relations restent très distante. Il vaut mieux que les frères soient en Canaan et Joseph toujours en Égypte. Peut-être il y a des démarches à envisager, des rencontres à avoir pour arriver à de vraies réconciliations. Pas chose facile. Quelqu'un a dit « Tout le monde trouve le pardon est une bonne idée jusqu'à ce qu'on a quelqu'un à qui il faut pardonner. » Mais ce chemin coûteux de la réconciliation sera le choix de Joseph. Et ainsi, les frères se retrouvent vraiment. Joie sur la terre et, j'imagine, également au ciel.